Eh bien, Dieu règne sur la terre, dans les cieux. C'est ce que je pensais. On a été à une retraite des ouvriers de l'Union, notre famille d'Église, depuis jeudi soir jusqu'à hier midi. Et c'est ce que j'avais sur mon cœur à travers cette fin de semaine. Dieu règne dans le ciel, sur la terre. Dieu est dans le ciel et il règne sur tout. Sur toute chose, il est le grand Dieu, notre Seigneur. Donc, ce matin, comme je fais à l'habitude, oui, j'ai un titre pour le message, mais ça va être une introduction, le message de ce matin à la semaine prochaine. Donc, pour ceux qui sont là, bien, je vous invite à être là aussi la semaine prochaine pour pouvoir suivre, pour ceux qui sont ici, ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Donc, parce que je vais faire résumer un petit peu, je vais faire un survol de ce qu'on a vu dans notre temps avec la retraite, avec les ouvriers, l'Union, et donner des nouvelles un petit peu en même temps à travers du message de ce matin. Donc, un compte rendu, bien, que je commence avec, je commencerai avec cette question, ce questionnement que nous devons nous poser comme individuels. Sachant que toutes les églises sont touchées par cette réalité, comment notre Église pense-t-elle vivre en communauté avec la diversité culturelle? Donc, c'était le point qu'on a regardé au travers de tous les ateliers, différents ateliers qu'on a participé aussi, parce qu'il y avait des échanges, et qu'on a appris, qu'on a discuter ensemble sur la diversité culturelle. Quelque chose qui n'est pas nouveau dans les Écritures, mais qu'on voit de plus en plus dans nos cultures au Québec. Je vais dire au Nord d'Amérique, mais c'est ça aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et on a les portes ouvertes, hein, aux nations, à toute la diversité et ainsi de suite, nationalité. Et ça a un impact dans nos églises. Ça l'amène une culture différente même dans nos églises, sachant que des personnes viennent de différents milieux ou différentes nations. On parlait ensemble, puis il y en a qui parlaient qu'il y avait 10 nations représentées dans leur assemblée. Quand même, hein? Donc, d'autres 9, d'autres 8, d'autres 5. Ici, on a peut-être 4. Ça dépend des semaines. Donc, on se promène un petit peu, mais on a beaucoup moins ici que aussi, je pourrais dire, les grandes églises. Parce qu'à Ottawa, on compte des églises d'une union de 400-500 personnes, deux églises aussi, une à Gatineau. On a une église à Québec aussi, compte à environ 150-200 personnes avec deux cultes et ainsi de suite. C'est sûr que la quantité ou la grosseur de l'Église va aussi faire la différence dans le multiculturel, culturalisme, donc on vit aujourd'hui. Et donc, ça va amener et ça l'amène des changements ou de manières de faire qui différent, qui différera de nos coutumes eschatologiques, c'est-à-dire ce qui désigne l'ensemble de nos pratiques, rites et traditions établies au sein de l'Église. Souvent transmis depuis les apôtres ou développés au fil du temps, ces usages englobent des actes dévotionnels, donc la manière de faire. On ne change pas les Écritures, mais c'est dans l'application dans l'Église qu'il y a certains changements, certaines choses qu'on s'ajuste. Donc, est-ce qu'on le voit? Est-ce que vous le voyez? Je pose la question. Oui, certainement. On le voit partout. Et même, je dirais, à travers même des petites églises, hein? Parfois même, on va visiter, on est en vacances, on va à l'extérieur, puis on va visiter des petites églises qui sont comme nous, une vingtaine, trentaine, puis il y a de la diversité là aussi. Donc, c'est partout aujourd'hui qu'on voit ce phénomène qui est grandissant. Qu'est-ce que ça amène comme changement? Bien, on avait celui qui nous parlait au travers de la retraite, qui est un Chinois. Donc, lui fait partie des églises baptistes chinoises de Montréal. Donc, il partageait, ils sont une grosse église, à 400-500 personnes, et ils sont beaucoup impliqués. Et c'est intéressant de voir même des cultures différentes qui s'établissent et qui amènent cette diversité qu'on voit aussi, comme on va le voir dans pas longtemps, dans les Écritures. Le Seigneur désire que nous réalisions que chaque défi que nous aurons à surmonter seront une opportunité. Donc, l'image qu'il nous faisait, c'est on a un défi et on a l'opportunité. Le défi vient avec une opportunité. C'est l'autre côté de la médaille. Souvent, on a des défis, on a des nouveaux mondes qui arrivent, mais qu'est-ce que ça amène? Une opportunité de pouvoir témoigner l'Évangile, de pouvoir amener l'Évangile partout. Donc, pour nous, ça peut paraître parfois un défi de voir la diversité, de voir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire comme changement, qu'est-ce qui va arriver avec l'Église, l'image de notre Église québécoise. Mais en même temps, ce défi est une opportunité parce qu'elle amène cette diversité, elle amène cette culture dans l'Église qui est à l'image de l'Évangile. Où trouvons-nous la diversité dans les Écritures en premier? Donc, on s'en va vers les Écritures. Où trouvons-nous la diversité? En Dieu. En Dieu, nous avons le Père, le Fils et l'Esprit. Trois personnes différentes qui ont qui sont Dieu, mais qui forment un. Ensuite, lorsque Dieu fit l'homme, il ne le fit pas seul. Il lui fit un aide qui est une autre identité pour vivre avec lui, pour être avec lui afin qu'il devienne un. Donc, la diversité nous amène à former le corps. Toute cette diversité-là nous amène à former un. Donc, Dieu se révèle trinitaire pour certaines personnes. Cela semble être irréaliste, un défi. Mais c'est une opportunité, parce que Jésus nous a dit, « Il est préférable que je m'en aille afin que je vous envoie le Saint-Esprit. » Donc, ça l'a amené, ce défi-là, que des fois, on a de la difficulté à comprendre, ça l'a amené bien quelque chose de bon pour l'Église. Pour les croyants en Christ, cela est une opportunité, car Dieu agit en Jésus par son Esprit qui vit en nous. Donc, c'est une opportunité. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 13, dans le contexte de l'amour, nous connaissons que nous demeurons en lui, en Dieu, et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son Saint-Esprit, son Esprit. Donc, même nous, comme individus, nous ne sommes pas seuls. Nous formons la maison de Dieu parce qu'il vient habiter en nous. Donc, Dieu vient habiter en nous, nous ne sommes plus seuls. Nous sommes de la maison de Dieu, on vient de chanter. Nous sommes enfants de Dieu. Dans Galates 3, 14, il nous a dit, « Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis aussi, qui avait été promis. » Donc, cet accomplissement que Dieu a fait à Abraham, c'est quoi? C'est la foi qui nous unit. C'est la foi qui nous unit tous ensemble. La foi en Dieu qui nous unit à un seul et même Dieu. Dieu, par son amour, nous a donné son Esprit afin que nous puissions recevoir dans nos cœurs la foi en son Fils. Et c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui nous a donné la foi. Donc, tout nous vient de lui. Tout nous vient du Seigneur. Donc, Dieu a, au tout début, dans Genèse, fit l'homme et la femme, de l'homme ensemble afin que ces deux êtres deviennent une seule chair. De deux, il y est apparu, il y est venu jusqu'à Noé. Et qu'est-ce qui est arrivé à Noé? Dieu a dû faire un changement, mais il a gardé Noé et sa famille. Et de eux est venu des nations. Pourquoi je dis des nations? Parce qu'un petit peu plus loin, dans Genèse 10, qu'est-ce qui est arrivé? La tour de Babel. Qu'est-ce qui est arrivé à cette tour de Babel? Genèse 10 et 11. Je pense que je n'avais pas écrit pour en arrière. Donc, on voit la généalogie de Noé au tout début de chapitre 10. Et à travers cette généalogie, on voit 70 nations. Déjà, la multiculturelle était là, faisait partie, était sur la terre. Et de toute cette diversité, de ces 70 nations, qu'est-ce qui est arrivé? Verset chapitre 11, est arrivé la tour de Babel. Ils se sont tous réunis ensemble pour former un. Une seule nation. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a fait? C'était ça le problème. Parce que Dieu a dit, allez sur la terre, multipliez-vous, afin qu'il y ait la diversité. Et qu'est-ce qui est arrivé à Babel? Ils n'ont pas écouté Dieu. Ils se sont mis ensemble afin de former un seul peuple. C'est pour ça que Dieu les a dispersés. Parce qu'ils n'ont pas obéi. Donc, Dieu veut que nous formons tous ensemble son peuple. Et même si on a de la diversité en Église, on forme le peuple de Dieu, mais il y en a quand même partout sur la terre. On ne se rassemble pas tous à la même place, dans la même église, pour célébrer Dieu. Mais il y a des églises partout sur la terre. Il y a des millions de chrétiens, de croyants à travers toute la terre. Donc, Dieu bénit les nations. Dieu aime la diversité. Ensuite, ils ont fait ce qui était contraire ou ce que Dieu avait demandé. Ensuite, on se transporte dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui est arrivé à la Pentecôte? Les disciples étaient tous réunis ensemble et ils attendaient le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, il est arrivé à un moment précis et pas pour rien. Il est arrivé le jour où il y avait le rassemblement des peuples en Israël pour le dénombrement. Donc, on voit à travers, même dans le Nouveau Testament, la diversité où ce que Dieu s'est servi, le Seigneur s'est servi par son esprit d'amener toutes les nations, tous ceux qui étaient là, à lui, à le connaître. Et c'est à ça que servit le parlant en langue, afin que toutes ces nations puissent entendre le message du salut dans leur propre langue et qu'ils soient touchés. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de parler en langue? C'est une autre question que j'aborderai une autre fois. Je n'irai pas là-dedans parce qu'on en a pour un bout. Mais tout ça pour dire que la première raison pour laquelle Dieu a fait le parler en langue et que l'Esprit est descendu dans l'Église, c'était pour que tous les peuples entendent le salut en Jésus-Christ, dans leur propre langue. Donc, Dieu a voulu unir en Jésus-Christ tous les peuples. Amen. Amen. Et ça, c'est à la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça va apporter? La fin de toute chose, Apocalypse chapitre 7. Qu'est-ce qui arrive dans Apocalypse chapitre 7? À la fin? Dans la fin des temps, lorsque toute chose sera renouvelée. Je n'avais pas écrit la référence. Après cela, chapitre 7, verset 9, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter qui était là dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Donc, ils avaient été lavés par le sang de l'agneau, par Jésus, par son sang. Ils l'avaient accepté dans leur vie. Ils ont été revêtus de cette blancheur spirituelle que le Seigneur opère en nous et les palmes dans leurs mains. Amen. Qu'est-ce qu'ils sont? Ça, ça a été une grande question que je me suis posée quand je suis venu au Seigneur, puis je disais, c'est quoi les palmes? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi il y avait des palmes dans les mains? Les palmes représentent leurs œuvres. Toutes les œuvres qu'ils avaient accomplies pour le Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ces palmes? Ils ont jeté aux pieds du Seigneur. Seigneur, on n'est pas digne. Malgré que tu nous aies appelés, qu'importe ce que j'ai fait pour toi, je l'ai fait parce que tu me le demandais. Je ne veux aucun mérite. Et toutes les nations, tous les peuples, toutes les tribus seront rassemblés dans la présence du Seigneur un jour. On n'a pas fini du multiculturel. Hein? On le voit tranquillement, ça s'établit dans nos églises, mais ça va être présent jusque dans l'éternité, frères et sœurs, pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu a appelé tous les peuples, toutes les nations et toutes les tribus à son salut, à la connaissance du salut en Jésus-Christ. Malheureusement, notre peuple québécois a mis du pied, du revers de la main, la foi. Mais le Seigneur est en train de faire une œuvre, une grande œuvre. Et je crois que le Seigneur est sur le bord de nous surprendre. Bien comme il faut. Moi, qu'importe, et je pense que le Seigneur, c'est sa pensée au travers de ce qu'on regarde, qu'importe qui nous sommes, de où nous sommes, de quelle nation ou tribu nous sommes, le Seigneur nous aime tous. Et le Seigneur nous accepte tous, tels que nous sommes. Il nous accepte dans sa présence. Donc, nous pouvons vraiment dire que Dieu a envoyé son Fils afin que tous soient sauvés. Hein, souvent, on parle de Jean 3,16, mais Dieu a aimé le monde. On aime le mettre pour nous-mêmes, hein? Parce que Dieu m'a aimé, m'a tant aimé, qu'il m'a donné la vie éternelle afin que je vienne à la foi et que je le suive. Mais c'est plus large que ça, frère et sœur. Oui, il y a toi, parce que tu fais partie du monde, mais il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Ton voisin, ton frère, ta sœur, qu'importe. Dieu a aimé tout le monde et aime tout le monde. Aime toutes les nations. Il n'y a personne qui est mis de côté de son amour. Il veut le répandre dans chacun des cœurs, dans chacune des vies. Sommes-nous prêts à aimer les autres comme nous avons été aimés par Dieu? Ça, c'est la question. Mettre nos différents côtés pour aimer Dieu ensemble. Ça, c'est un peuple qui honore le Seigneur. Défi, opportunité. Notre génération est en changement et tout comme la prochaine génération le sera aussi. La culture et notre héritage seront gardés grâce à notre accessibilité, notre transparence et notre accueil. J'ai mis ces mots-là pour une raison. Parce que la parole de Dieu nous appelle à accueillir les étrangers. On le voit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. La parole de Dieu nous amène à être transparents. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai accepté Jésus et je veux vivre la vie du Seigneur. Je veux manifester la vie du Seigneur qui est en moi. Et non mon côté charnel, parfois, qu'il cherche à prendre le dessus. Nous sommes appelés à être des personnes, des gens spirituels, des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur et qui vivent pour lui. Il nous était dit au travers des partages, car la diversité est un fait, l'inclusion est un choix. Réfléchis et acceptez l'appartenance, l'inclusion sont l'accompagnement de ce que le Seigneur désire pour son Église. Je l'ai travaillé un petit peu, parce que c'était beaucoup plus large. Mais je vais le répéter. La diversité est un fait qu'on ne peut pas changer. C'est quelque chose qui va arriver et qui arrive. L'inclusion est un choix, par exemple. Les accepter, ces nouvelles nations, et qu'ils fassent partie de l'Église, c'est un choix que chacun doit faire. Ce choix doit être réfléchi. Et accepter l'appartenance, l'inclusion sont l'accomplissement de ce que le Seigneur désire pour son Église. Le Seigneur veut qu'ils soient inclus, qu'ils se sentent chez eux. Au travers les partages, peut-être en dehors aussi, on parlait qu'il y a des personnes qui viennent de l'extérieur pour un travail. Leur but, c'est de rester, de demeurer ici pendant un certain temps pour qu'à leur retraite, puissent retourner dans leur pays. Mais beaucoup change. À ceux qu'on parlait, comme celui que vous connaissez ici, que lui est chinois, comme qui disait, lui est arrivé ici puis il est de la deuxième génération. Certains vont s'installer et vont rester. Parce que il aime la culture. Il aime notre joie de vivre. Il aime nos parties. C'est ça qu'il disait. On est des gens festifs. On aime la cabane à sucre. On aime le fêter Noël. On fête Pâques. On aime les fêtes. Et beaucoup de nations aiment fêter. Est-ce que Dieu est contre les fêtes? Ben non. Dans l'Ancien Testament, c'est rempli de passages. Il se dit qu'il fêtait les mariages pendant une semaine. Il fêtait la Pâque pendant une autre semaine. Il y a plein de fêtes qu'on voit dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament avec Jésus. Hein? Donc, la fête, on est habitué à ça et on aime ça. Puis ceux qui viennent, bien, ils aiment ça aussi. Donc, on rouvre nos portes puis on festoie tous ensemble. Et l'inclusion amène quoi? Amène une part de culture, de leur culture, à amener dans nos cultures. Et ça, c'est le fun. J'ai été dans plusieurs années, j'avais été à Ottawa, justement. Susan ne se souvient pas trop. On avait été, puis il avait fait un repas, mais c'était un repas typique de l'Afrique. C'était intéressant, avec différents plats. C'était comme un gros michoui, un peu pour vous imaginer, là. Pour les Québécois, parfois. Mais c'était un peu comme un gros michoui avec du poulet, des bananes plantains, différentes choses, des légumes. Fait que c'était un gros, comme un potage, si vous voulez, mais avec des morceaux. Pas en purée, là, mais des vrais morceaux. C'est vraiment bon, ça sentait bon. Donc, ils aiment le riz. Il y a beaucoup de riz, des pâtes, pas des boules de pain, je ne sais pas comment est-ce que on pourrait appeler... définir cette nourriture. C'est comme un peu une pâte de pain qu'on prend puis on peut tremper et manger des fois avec les mains. Des fois, ça va mieux que les mains qu'avec des ustensiles. Mais c'est intéressant. Donc, c'est des différentes choses qu'on apprend des autres cultures puis qui peuvent nous enseigner, qui peuvent nous emmener. Puis c'est le fun de participer. On fait un repas une fois par mois ici. Fait que avec le temps, bien, si d'autres cultures commencent à grandir dans l'Église, bien, on pourra faire des moments, des échanges, comme ils font à Québec, Ottawa aussi. des nations, fête les nations une fois par année, mais il y a aussi des repas qui font aussi des nations. Fait que ça, c'est intéressant aussi. On fait un dîner agapé avec des repas qui viennent de différents endroits dans le monde. C'est intéressant. Pour les Chinois, bien, ils nous contaient un petit peu, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais c'est quand ils font d'eux-mêmes au complet, ça ne goûte pas ce qu'on mange au restaurant. Ça goûte beaucoup meilleur. C'est ça qu'on parlait ensemble, puis c'est intéressant. C'est toujours meilleur quand c'est fait à maison par des gens qui aiment leur nourriture que par un restaurant qui doit faire produire et ainsi de suite. Je ne suis pas contre les restaurants, là, ceux qui nous écoutent. De temps en temps, ça fait du bien de se faire servir, mais... Donc, bon, fais un petit survol un petit peu à travers différentes choses. Donc, chaque peuple et chaque nation ont des points forts et faibles, mais les émotions sont tous issues d'actions qui sont la cause de réactions. Qu'importe où je viens ou l'endroit où tu viens, ce qui me et te définit n'est pas une finalité, surtout pour le disciple du Seigneur, pour ceux qui veulent servir le Seigneur. Donc, nous changeons et vous changez et on change ensemble, on apprend, on grandit et on met la parole de Dieu en pratique au travers nos relations interculturelles. Exemple d'exercice que nous avons fait en groupe, nous avons analysé différents types de comportements chez des personnes venant de différentes nationalités présentes, des pasteurs venant du Québec, Smile, entre autres, des maritimes de l'Ontario, de la Chine, de la Suisse, de l'Afrique, du Congo, de Haïti. Donc, on avait un peu des pasteurs un petit peu partout, parce que nos églises francophones du Canada, bien, on a des gens parle le français partout et on sait qu'au Congo, ça parle beaucoup français, en Haïti aussi, donc beaucoup de pays aussi qu'on a des églises qui font partie de notre association d'églises, une union d'églises baptistes. Donc, c'est intéressant de voir à travers des partages. Je n'ai pas emmené, je pense, la feuille sur celui-là. J'ai emmené d'autres choses, je les partage aussi. Mais on a fait une mise en scène un petit peu de différentes choses qui peuvent arriver dans une église lorsqu'on parle et lorsqu'on discute ensemble. Et comment est-ce qu'on voit ce qui arrive, l'action qui est en train d'arriver. Et c'est intéressant de voir que, comme on a, la première ligne, je me souviens, il parlait qu'il y a deux personnes qui sont ensemble puis qui sont fâchées. Puis l'autre ligne, c'était... Je regarde mon épouse. L'autre ligne, c'était bon, il y a une personne qui semble être en colère, puis l'autre personne parlait fort. Comment est-ce qu'on conçoit, comment est-ce qu'on voit ça? Comment est-ce qu'on interprète? Juste ces deux lignes-là. Personne qui parle fort, puis l'autre qui est fâché, qui est en colère. Comment est-ce qu'on interprète ça? C'est intéressant de voir, bien, pour certains, le fait qu'ils parlent fort, c'est normal. On connaît beaucoup de personnes que lorsqu'ils parlent, ils s'expriment. Hein? Surtout, différentes nationalités, parfois, qui ont ça dans le sang. On prend, les Chinois sont beaucoup expressifs, hein, comme ils parlaient. Il y a certaines personnes, certaines nationalités africaines qui parlent fort. Ils aiment ça se faire entendre, puis ils s'expriment, puis ils bougent beaucoup. Fait que si on n'entend pas ce qui se passe, on dit qu'il est fâché. Mais est-ce qu'on a la conversation où on est en travers d'une vitre? Si on est en travers d'une vitre, on peut dire, oui, il a de l'air fâché. Mais non, il fait juste discuter normalement. Des fois, c'est l'interprétation, parce que pour un Québécois, ben, en tout cas, pour la plupart, on est moins expressif, on bouge moins, puis on parle moins fort, mais pas le fait qu'on parle fort aussi, que ça veut dire que il est en train de se passer quelque chose, il y a une friction qui se passe, ils sont fâchés un contre l'autre, la bataille va pogner. C'est toujours comment, c'est qui, et dans quel contexte, et quand on n'a pas ce qui se passe au complet, bien on peut... Fait que c'était drôle de voir les réponses. C'est parce que nous, on disait, ben c'est évident, il est fâché. Il parle fort, puis c'est écrit, il est fâché. Il dit, oui, mais s'il est fâché, c'est pas nécessairement parce qu'il parle fort. Parce qu'il y en a qui sont fâchés, puis ça paraît pas bien, bien. Ils n'ont pas la voix comme c'est qui? Oui, ils gardent plus ça intérieur. Ouais. Mais, c'est pas, je sais. Ah, c'est. J'ai trouvé, c'est Nadia, la semaine passée, qui avait de la difficulté à parler. J'ai même fâché, là. On ne l'entendait pas, là. On essayait de le picosser pour voir, là, mais ça ne sortait pas plus fort. Donc, des fois, bien, c'est ça. Elle pouvait être bien fâchée, mais on ne peut pas le savoir. La voix reste. Elle reste une petite voix. Donc, c'est intéressant de voir les réactions et les exercices qu'on a faits en situation, en mise en situation. L'échange de personnes. Un autre point, 1 Corinthiens 6, versets 11 à 13. Suzanne, je vais t'inviter pour cette partie-là. Suzanne, elle a été à un atelier parce qu'il y a des ateliers que on n'a pas été ensemble, qu'elle allait été. Puis j'aurais aimé ça, aller à celle-là, mais je voulais aller à une autre. Fait qu'on a des choix à faire. Je l'ai emmené ici, le cahier. Hein, je suis gentil, hein, je te prends comme ça. Moi, je le savais. Puis je te l'aurais dit avant, je t'aurais stressé avec ça. Fait que... C'est ton micro. Celle-là? Celle-là ou l'autre? Fait que je vais laisser cette partie-là. Moi, j'avais écrit, Suzanne a été dans un atelier sur parler avec franchise dans l'amour et ouvrir notre cœur. Les comportements qui viennent d'une émotion de défense, car nos actions de colère, notre manque de respect et le désir de causer de la honte chez les autres viennent de quelque chose, souvent, qui est beaucoup plus profond. C'est pour ça que j'aurais aimé... Je t'ai résumé ça un peu, là, mais... Parce que je l'ai lu. J'ai lu, c'est...
OK. Même moi, il faut que je le relise. Il y avait comme plusieurs situations, mais on a parlé d'une situation qui arrive souvent, la ponctualité dans les églises. On s'entend, le culte commence à 10 heures. Mais pour certains, la ponctualité, il y a plusieurs raisons pourquoi ils ne sont pas là à l'heure. Et là, c'était dans le sens de dire, il y en a, ça va les insulter, fâcher que quelqu'un ne soit pas à l'heure. Mais si tu lui dis directement pourquoi tu n'es pas à l'heure, bien là, la personne qui le reçoit, bien là, ça allait y toucher émotionnellement. Fait que là, ça pouvait lui emmener soit la honte, l'injustice, l'incompréhension, ça fragilise la relation. Puis il veut pas, il va rétorquer, il va répondre, il va vouloir se justifier, puis ça amène, tu sais, comme un petit peu conflit. Fait que là, c'était de voir pourquoi toi, ça te fâche d'aller voir plus loin tes émotions. Puis essayer de comprendre, puis plutôt d'aller voir la personne, puis demander ou de faire une réflexion sans être direct. Mais dire, je vois que tu n'arrives pas toujours à la même heure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'on peut aider? Ou de s'informer sur la personne. C'est quoi qui se passe dans sa vie? De s'informer de elle, de s'intéresser à la personne avant d'arriver, puis tu n'arrives pas à l'heure. Tu sais, c'était vraiment spécial. Puis le fait de faire ça, veux pas, ça fait une meilleure relation avec la personne parce que tu t'intéresses à elle, premièrement. Puis tu peux voir, c'est comme donner un exemple, justement, à l'Église Renaissance. Il y avait une dame, puis on a des sœurs ici, monoparentales. Elle a 4 ou 5 enfants. puis il faut qu'elle prenne l'autobus pour s'en venir à l'église. Fait qu'on s'entend qu'elle n'est jamais à l'heure. Mais ils se sont informés. Ah, on comprend. Puis la dynamique était différente. Tandis qu'un autre, qu'il est bien aisé, puis qu'il n'y a pas de problème, il est tout seul, puis il y a une bonne voiture, puis lui, il est là 15 minutes avant. Fait que tu sais, on ne peut pas arriver, puis tu sais, comparer, lui, il arrive pas à l'heure, lui, à l'heure, mais il faut aller plus loin. T'sais, c'était ça, l'intervention. Puis pour certains, on parle de culture, l'interculturalité, il y en a que c'est plus ou moins important, mais c'est de comprendre le pourquoi, tu sais. Pourquoi que c'est différent? Nous, on est habitués d'une certaine façon aussi, mais si on irait dans un autre pays, peu importe le pays, ils nous regarderaient peut-être de travers, ils diraient, voyons, c'est quoi votre problème? Tu sais, c'est ça, c'était d'essayer d'aller plus loin, d'essayer de comprendre, premièrement, s'il y avait besoin d'aide, c'était quoi la situation, puis d'avoir une compassion, puis une compréhension un envers l'autre. Que c'était une drôle de dynamique, là, parce que là, un moment donné, ça embarquait, puis c'était même des histoires dans le couple, qui disaient, un qui était pressé, il fallait que ça aille à l'autre, puis l'autre, mais là, c'est pas, j'aimerais ça relaxer, là, puis essayer de trouver une entente, un terrain d'entente. Fait que c'est toujours, au bout de tout ça, d'avoir une bonne communication, puis d'essayer de se comprendre, puis avoir une compassion un envers l'autre. Fait que c'est un peu le but de ça, mais on avait parti de la ponctualité, mais ça pouvait être mille et un sujets. Donc, c'était pas mal ça, là.
J'avais entendu, à un moment donné, une personne qui avait témoigné qu'elle faisait 2 heures de marche pour se rendre à l'église. Fait qu'on s'entend que ça, tu prends ton char, puis tu t'en viens, ça prend 15 minutes. Gloire à Dieu, Seigneur, tu sais, a pourvu, mais il y en a qui n'ont pas les moyens, comme la dame monoparentale qui s'en vient en autobus, qui fait un trajet avec des enfants, des jeunes enfants, pour se rendre à l'église. Donc, des situations, des mises en situation. Et c'est ça que je trouve intéressant de cette retraite en fin de semaine. Il y avait des mises en situation au travers des explications qui nous aident à comprendre le multiculturel aussi, comment est-ce que ça se passe. Parce qu'on ne comprend pas des fois comme... Nous, ici, Nord d'Amérique, on dit, regarde, tu commences à telle heure, il faut que tu sois là à l'heure. C'est mieux d'arriver même avant, d'aller prendre un café avant. Souvent, on invite, c'est pour ça qu'on a du café. Pour ceux qui veulent, des fois, il y a un petit peu, une petite collation. Fait qu'on aime mieux que les gens arrivent avant, puis qu'il y ait le temps de relaxer avant de commencer, que d'arriver à la dernière minute, et ainsi de suite. Mais, on n'est pas en contrôle. Donc, il faut être compréhensif envers ceux qui n'ont pas de contrôle aussi. À travers ces choses-là. Donc, des fois, c'est facile. Nous autres, on est juste deux. Quand on avait les enfants, c'était une autre dynamique dans la maison pour être à l'heure. Donc, c'est ça. Nous avons eu une information concernant la violence conjugale et l'Église au Québec. Recherche effectuée par la direction chrétienne, dont le feuillet sera mis à l'arrière. Donc, je l'ai ici pour l'instant. Donc, on l'a ici. Enfin, je vais l'afficher en arrière. Donc, ça parle du pourcentage. Ça a été fait la recherche en 2021. Fait que ça fait quelques années, mais ça ne l'a pas changé. Ça l'a juste empiré, je pense, avec la pandémie. Donc, les gens qui ont resté à la maison et ainsi de suite, c'est ce qu'elle disait la dame concernant justement cette recherche qui avait été faite. Malheureusement, je dis malheureusement, on parle d'agression, de violence conjugale et que c'est en hausse même dans les églises. Fait que c'est ça qui est aberrant lorsque tu penses à des personnes qui ont accepté Christ dans leur vie, qui vivent avec l'amour de Dieu et qui manifestent de la violence envers l'autre. C'est vraiment à la fin des temps, on va dire comme ça, parce que c'est inacceptable. Nous avons aussi reçu un guide, donc, que j'ai ici, qui a été acheté par l'Union, qu'on a pour que toutes nos églises puissent l'avoir. C'est quand même un livre avec, je n'ai pas checké le nombre de pages encore, 70 pages environ. 63 pages. Donc, quand même assez explicite. Ça parle d'un guide à destination des églises pour faire face aux violences conjugales, donc pour aider aussi ceux qui passent par des moments ou qui ont un conjoint ou un conjoint ou quoi que ce soit, qui sont même en contact à travers ce guide-là, il en parle, avec des personnes qui vivent la violence, des femmes qui vivent, des hommes qui vivent la violence conjugale. Souvent, on s'arrête aux femmes et on parle beaucoup des femmes qui vivent du féminicide, qui amène des homicides, mais il y a aussi des hommes qu'on ne parle pas beaucoup. Nous, on a connu un homme, à un moment donné, que c'était lui qui était la victime. Donc, il faut faire attention avec ces choses-là, mais il faut que ce soit mis au grand jour avant que le drame soit fait, avant qu'il y ait un drame qui arrive. Et, comme je disais, malheureusement, ces agressions sont encore et souvent cachées par les personnes concernées et par leurs proches. Il sera, donc, ce livre va être disponible par Marie-Jo, avec la bibliothèque, la semaine prochaine. Parce que je veux le lire avant. On l'a eu tout frais, je l'ai eu hier, avant-hier, en tout cas. Ces derniers jours, parce que je n'ai pas eu le temps de le lire, mais je voulais le lire avant qu'on puisse le partager à ceux qui veulent s'informer concernant ça. Je m'étais mis une note, je voulais lire quand même quelque chose que j'ai vu. C'est tout intéressant, mais quelque chose que je voulais partager. Bon. Ici, il est marqué, ici, qu'en retenir pour des victimes survivantes, les violences conjugales privent l'homme et la femme de leur dignité, de leur valeur et de leurs identités. Elles créent, être créé à l'image de Dieu signifie que les deux, mâles et femelles, reflètent la gloire et la merveilleuse, et les merveilles de celui qui les a créés. Tous deux, hommes et femmes, portent le sceau du roi. Cela implique que les deux ont une dignité et une valeur intrinsèque qu'on ne peut leur ôter. Donc, il y a une valeur profonde, autant pour l'homme que pour la femme, pour Dieu. Il y a une partie qui, justement, c'était faite pour les églises. Donc, il y a des références bibliques, il y a différentes choses aussi, pour ceux des fois qui disent « Ah, mais ça, c'est fait par le monde pour le monde, mais ça, c'est fait pour l'Église, dans l'Église aussi, pour les chrétiens. » Donc, c'est pas seulement un commentaire, mais c'est aussi une vérité. Frères et sœurs, nous faisons réaliser que nous sommes chacun de nous la plus belle image de celui de qui nous parlons et représentons. Et on s'en va vers le message de ce matin, l'introduction, avec cette pensée-là. Nous devons être et vivre une théologie de l'incarnation. La parole de Dieu, Jésus, ressuscité en nous, et la parole faite chair, qui habite en nous. Et pleine de grâce et de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, pleine de grâce et de vérité? Pose la question. La grâce nous fait reflète quoi? Le pardon. Reflète le respect. Oui. Le cadeau de Dieu. Le don de Dieu, la vie de Dieu nous a été donné par grâce. Donc, la parole a été faite chair et elle habitait en nous et parmi nous. Bien que cette parole de Jean 1,14, que je viens de lire, bien que ces paroles s'adressent à Jésus, si Jésus vit en nous, devrions-nous pas nous aussi accueillir la parole en nous, en manifestant aux autres la grâce et la vérité de Dieu. Souvent, dire, j'ai accepté le Seigneur vient en moi, mais ce n'est pas le témoignage. Ce n'est pas le témoignage de notre vie. Ce n'est pas la parole de Dieu qui sort de notre bouche. Ce n'est pas les attributs de Dieu qui sortent de nous, qui sont dégagés de nous. On doit revenir à ces vérités profondes afin d'incarner notre théologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas seulement avoir une théologie qui est écrite, mais une théologie qui est vivante. Vive la parole de Dieu. Pas seulement la lire et l'étudier, mais la vivre aussi. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Galates chapitre 2, verset 20. Paul nous dira, si j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si on ne comprend pas ça, là, on n'ira pas loin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le message principal de l'Évangile. C'est le message principal de l'amour de Dieu pour les nations et pour chacun de nous ce matin. Avoir été crucifié avec Christ nous amènera à vivre pour lui. Mais si je ne suis pas prêt à renoncer à moi-même, je ne vivrai jamais pour Christ. Le danger aujourd'hui, c'est qu'on veut vivre la vie du monde en marchant avec Christ. C'est faisable. Mais tu ne peux pas marcher en lui. Ça, tu ne peux pas le faire. On a une théologie parfois qui est là, écrite, qu'on sait, qu'on connaît, qu'on a approfondie, mais qu'on ne vit pas. Qu'on ne transmet pas et qui ne paraît pas. C'est impossible. C'est impossible de vivre comme ça pour Christ. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en moi, fais attention, par exemple. Fais attention à ce que tu fais. Parce que même le plus petit péché est un péché. Et qu'est-ce qu'un péché? C'est une désobéissance à Dieu. Désobéir à Dieu, c'est pas dur à faire. Tout le monde est capable de faire ça. Mais marcher pour Christ, par exemple, et en Christ, ce n'est pas donné à tout le monde. Seulement à ceux qui sont appelés. Et ceux, comme on a chanté, qui sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Seigneur et par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Mais lorsqu'on accepte cette vérité et qu'on cloue, on se cloue avec Christ à la croix, à partir de ce moment-là, on peut vivre pour lui. Et on peut marcher en lui. Ce que je dis doit être ce que je vis. Je dois être ou avoir été crucifié avec lui. Avec Christ à la croix. Et qu'est-ce que ça veut dire? Avoir renoncé à moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Marcher selon les exigences de Dieu. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est difficile? Oui et non. Hein? Oui et non. Je ne dois pas vivre dans le péché ou sous la loi et la désobéissance aux enseignements du Seigneur, mais manifester les œuvres, la vie et la vérité du Seigneur. Sinon, je prêche quelque chose de mort, sans avoir vraiment été régénéré par la conversion et la sanctification. Et si je prêche quelque chose de mort, ça n'a pas un grand impact. Puis ça ne l'aura jamais. Mais si je prêche Christ ressuscité, là, ça a un sens, quand je le vis. Quand moi-même, j'ai été crucifié avec lui. Là, je comprends. Je comprends plus en profondeur qu'est-ce que je dis. Et je vois l'impact que ça donne. Parce que je ne fais plus juste des mots pour atteindre les gens, mais je dis, je livre l'amour de Dieu par ce que je dis. Par ce que je dis. Personne ne peut être en règle devant Dieu sans avoir au préalable ou avant tout crucifié sa vie avec le Seigneur. En d'autres mots, avoir donné sa vie au Seigneur. Matthieu chapitre 16, versets 24 et 25, Jésus dit à ses disciples, pas n'importe qui, à ceux qui suivaient, qui marchaient avec lui, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, à cause de la croix, la retrouvera. Amen. Tu veux avoir une vie épanouie, hein, Seigneur? Bien, règle ça tout de suite. On ne demande pas de monter une croix, un bois, puis de t'étendre dessus. Là. Mais accepte l'œuvre de Jésus à la croix. Accepte son pardon. Accepte sa grâce et son amour. Si tu veux être disciple et suivre le Seigneur, être libre, régénéré et sanctifié, purifié, la grâce est à la croix. Sa grâce est à la croix en premier. C'est ça, accepter le Seigneur. Ce n'est pas juste faire une prière. La prière, c'est un départ. C'est un début. Venir à la foi, c'est un début. Mais ça l'engage à quelque chose. Ce début-là engage de renoncer à nous-mêmes. Il n'y a personne qui puisse venir à Dieu sans avoir marché et appris avec le Seigneur. Le premier pas que tu dois faire est donc à la croix. Dans Marc chapitre 10, versets 26 à 30, les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, « Mais voyons, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? » Jésus y regarda, et moi j'aime tellement ces trois mots-là. Jésus les regarda. Jésus te voit, te regarde. Comme il a regardé ses disciples et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Qu'est-ce que Jésus répond? Verset 29. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres. On parle de nations. Ils ont même quitté leur terre pour suivre la volonté de Dieu, pour suivre le Seigneur. Avec des persécutions, et ne reçoivent, pardon, les termes, verset 30, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, des persécutions et des et le siècle à venir, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Parfois, il faut quitter même notre famille pour suivre le Seigneur. Parfois, on peut être rejeté même de notre famille. Lorsqu'on se donne, on donne notre vie au Seigneur pour le suivre. Comme pour les disciples. Ça l'amène parfois des temps difficiles, des défis. Mais le défi amène une opportunité qui va être éternelle, qui a des réponses et qui a une persécution, une répercussion éternelle. Si tu es de ceux qui seront dans la présence de Dieu, tu auras des tribulations dans le monde. Même de personnes proches, car nous ne sommes pas crucifiés avec le Seigneur pour des richesses terrestres, mais pour des récompenses célestes. 1 Pierre chapitre 3, verset 17, nous dira, « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » C'est quoi faire le bien? C'est faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Qu'importe ce que ça coûte, je marche avec le Seigneur. Qu'importe ce qui m'arrive, je marche avec le Seigneur. Parfois, ça peut être difficile, mais le royaume de Dieu, hein, c'est pour ceux qui veulent s'en emparer. Pour ceux qui ont assez faim et soif pour s'en emparer. Je terminerai avec ce passage de Philippiens, chapitre 2, versets 15 et 16 ce matin. « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir plus couru en vain, ni travaillé en vain. » Amen. Nous sommes porteurs de la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais pour porter la bonne nouvelle, il faut vivre la bonne nouvelle. Ça vient avec. Ça vient avec. Nous portons la parole dans un vase de terre, nous dit les Écritures, mais elle est comme un flambeau en nous que nous portons et chérissons, qui nous pousse à courir vers le but et notre demeure céleste en Christ. Donc, où sont mes yeux? Où sont nos yeux? Ils doivent être à la croix. Doivent être sur l'œuvre de Jésus à la croix, encore et encore. Nous devons porter cette parole comme un flambeau dans le monde, malgré ce que ça coûte, ce que ça peut coûter, ce que ça va coûter. On ne souffrira jamais comme Jésus a souffert pour la parole, pour annoncer la parole de Dieu. Donc, je vous invite à vous lever. On va faire un mot de prière avant de se quitter ce matin. Mais Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous enseignes l'amour que tu as envers nous et envers les nations. Merci parce que tu nous offres à tous le même sacrifice. Tu nous offres à tous ce même salut, cette même liberté en Jésus-Christ. Et Seigneur, pour cela, nous sommes tous égaux devant toi. Qu'importe la nation dans laquelle nous sommes ou nous venons, Seigneur, tu es le même. Tu vis, tu règnes dans les cieux, sur la terre, et ta volonté s'accomplit. Merci, Seigneur, que tu as envoyé ton Esprit afin de nous révéler le Fils et afin, Seigneur, de te manifester en nous pleinement et entièrement. Parce que c'est par toi, Seigneur, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est en toi que nous avons le oui et amen. C'est en toi, Seigneur, que nous avons la force de persévérer malgré les persécutions qui viennent dans ce monde. Mais tu nous invites ce matin, sachant les temps dans lesquels nous sommes, à lever les yeux, à regarder à la verticale, Seigneur, dans ta présence. Tout ce dont nous avons besoin, dans ta parole, dans tes promesses, Seigneur, tu nous combles de tellement de bien. Seigneur, merci pour tout ce que tu accomplis dans chacune de nos vies et reçois chacun de nous ce matin dans ta présence. Reçois-nous, Seigneur, afin, Seigneur, qu'on puisse être complètement et entièrement régénérés, qu'on puisse repartir libre. Merci pour tout ce que tu accomplis, tout ce que tu as accompli toi-même pour nous à la croix. Sois béni, glorifié, dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen.